Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité pour la deuxième semaine.
Bonjour, je m'appelle Claire Villiers, je suis syndicaliste à la NPE, je suis militante à Agir Ensemble contre le chômage et membre de la Fondation Copernic où nous avons écrit une note sur l'indemnisation du chômage qui s'appelle « Pour un Grenelle de l'UNEDIC ».
Et Ali Tretonic. Alors la semaine dernière, on a vu comment ça fonctionnait, l'indemnisation du chômage. Mais j'ai lu les journaux, comme d'habitude, et j'ai cru comprendre qu'au 1er janvier 2004, il y avait quelque chose qui était tombé sur la tête des chômeurs. Vous pourriez nous expliquer ça?
En fait, c'est tombé sur la tête des chômeurs au 1er janvier 2003, mais personne ne s'en est rendu compte. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord qui a été signé en décembre 2002, c'est ce que j'expliquais la semaine dernière, c'est-à-dire que, comme le patronat a joué à l'apprenti sorcier, ils n'ont pas fait de réserve, ils ont baissé les cotises, et donc, retournement de conjoncture économique, le régime UNEDIC s'est retrouvé en déficit. Donc, évidemment, dans ces cas-là, plutôt que d'augmenter considérablement les cotisations des entreprises, enfin, les cotisations, la part des entreprises qui ça dirait, au moins, en tout cas, leur responsabilité, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur le plus petit de la classe et donc ils s'en prennent aux chômeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de réduire la durée de l'indemnisation du chômage. Alors, réduire la durée à la fois parce que ça a un intérêt financier, évidemment, mais aussi parce que, comme ce qu'on disait la semaine dernière, ça oblige les gens à prendre un peu, enfin, n'importe quoi, en tout cas, pas ce qu'ils souhaiteraient et en tout cas accepter de l'emploi dégradé. Alors, ils la réduisent de manière très considérable. C'est-à-dire que maintenant, les plus précaires n'ont plus droit à rien du tout. Puisque maintenant, si on a moins de 6 mois de travail dans les 22 mois, on n'a plus droit à rien du tout. Et donc, dans ces catégories-là, il y a des gens qui auront 14 mois en moins par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir avant. Dans une autre catégorie, qui est la catégorie principale, où on ouvrait droit à 30 mois d'allocation chômage, ceux qui avaient eu un boulot, qui sont licenciés, etc., un peu stable. Ceux-là, au lieu de 30 mois, ils auront plus droit qu'à 23, c'est-à-dire qu'ils perdent 7 mois. Et puis, pour les plus âgés, il y avait une catégorie pour les plus de 57 ans qui avaient un certain nombre d'années de cotisation, etc. Ils avaient droit jusqu'à 60 mois de chômage. Ça voulait dire qu'on actait du fait qu'ils ne pouvaient pas retrouver de boulot, en fait. Et là, aujourd'hui, ils n'auront plus droit qu'à 42 mois, voire 36 mois dans d'autres catégories. Ça veut dire qu'ils perdent 24 mois, 2 ans en moins. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver sans travail sur le coup de 57, 58 ans, et qui n'auront plus aucune allocation. Donc on va avoir de nouveau ce que moi j'ai connu quand j'étais petite, puisque j'ai 50 ans, donc quand j'étais petite, on parlait des vieux travailleurs qui étaient des gens dans la misère. Ça, c'est quelque chose qu'on avait peu à peu perdu de vue. Entre l'offensive sur les retraites et ça, on va se retrouver de nouveau avec des gens âgés et qui seront dans la misère. Alors, cet accord, il s'est donc mis en place au 1er janvier 2003. Donc ceux qui sont rentrés, ils ont la nouvelle réglementation, mais fait rarissime dans le régime, assurance chômage, ça s'est passé qu'une seule autre fois, et c'est absolument incroyable, même d'un point de vue juridique, c'est que ceux qui étaient en cours d'indemnisation du chômage au 1er janvier 2003, ils leur ont envoyé très cyniquement une lettre en leur disant de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien, qu'on garantissait leurs allocations pour 2003, très bien, mais on ne leur disait pas ce qui se passait après. Et en fait, ce qui se passait après, et on avait été très peu à hurler à l'époque, il y avait eu les organisations de chômeurs, et c'est à peu près tout, on n'a entendu personne dans le landerneau syndical ou politique dire que c'était un scandale. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que tous ceux qui étaient en cours au 1er janvier 2003, un an après, on allait leur appliquer la nouvelle réglementation. Et donc, c'est ça qu'on appelle en ce moment les recalculés. C'est-à-dire que au 1er janvier, ils ont pris les compteurs et quelqu'un, par exemple, qui avait ouvert un droit à 30 mois d'allocation chômage et qui, au 1er janvier, en a consommé 24, parce que ça faisait 2 ans qu'il était au chômage au 1er janvier 2004, eh bien, on lui dit, madame ou monsieur, vous n'avez plus droit qu'à 23 mois, donc soyez déjà extrêmement content, on ne va pas vous réclamer le mois que vous avez touché en plus. Mais au 1er janvier, 0 heure, vous n'avez plus rien. Et ça a concerné, c'est difficile à savoir aujourd'hui, il faudra regarder les chiffres, mais entre 180 000 et 250 000 personnes. C'est le plus gros plan social, si on considère qu'un plan social, c'est de supprimer le travail, mais surtout le salaire, un certain nombre de gens, c'est le plus gros plan social qu'on ait jamais connu dans ce pays. Et évidemment, ça va s'étaler sur le temps, parce que, comme les allocations l'allocation chômage, la durée, ça court. Donc dans les deux ans qui viennent, c'est entre 650 000 et 800 000 personnes qui vont se retrouver sans allocation à chômage. Et tout ça dans un silence absolument total. Les chômeurs, on n'a pas réussi à les mobiliser. Parce que évidemment, quand on reçoit une lettre de ce type, moi j'ai entendu plusieurs cas de personnes qui se sont suicidées, carrément. Parce que c'est en même temps l'impression, non seulement on a été licencié, mais en plus, on vous... Enfin, moi j'en ai encore les larmes aux yeux quand je parle de ça. Parce que je trouve que c'est vraiment un scandale de mettre des gens comme ça. Parce qu'on leur dit, mais vous n'avez même plus le droit d'avoir les moyens de survivre. Hein. Je rappelle, c'est que 57% les allocations chômage, c'est que la moitié du salaire. Bon. Et donc on leur dit, bon, et maintenant vous avez... vous n'avez plus droit aux allocations chômage. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose à la place ? Le ministre du Travail dit c'est pas catastrophique parce que un tiers auront droit à l'allocation de solidarité, celle qui est versée par l'État, un tiers auront droit au RMI et un tiers n'auront rien. En fait, nos calculs, c'est pas du tout ça. C'est que, et je réexpliquerai peut-être après, qu'est-ce que c'est que la SS et le RMI, et on regardera la réforme du RMA par rapport à ça. En fait, les calculs, c'est que 18% de ces 800 000 qui vont être jetés auront droit à la SS, l'allocation de solidarité, 17% auront droit au RMI, et 65% n'auront plus droit à rien.
C'était pour essayer de remonter le moral aux auditeurs, puisque là, on venait d'apprendre qu'apparemment, il y allait avoir à peu près 65% des chômeurs qui allaient tomber à rien à ces brèves échéances. Mais bon, il y en a d'autres qui vont être secourus, on pourrait dire, par le RMI et l'ASS. Vous pourriez effectivement, comme on avait dit qu'on allait le faire, nous repréciser ce que c'est.
Alors d'abord, je dis, c'est pas 65% des chômeurs qui n'auront rien, c'est 65% des 800 000 recalculés, parce qu'il faut pas exagérer.
Oui.
Les 800 000, ça représente un peu plus d'un tiers de la totalité des chômeurs. L'UNEDIC indemnise à peu près par mois 2 millions de personnes. Alors donc, dans quoi ils vont tomber ces gens? Alors là, ce qu'on appelle l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, c'est une allocation qui est versée par l'État, mais elle a une énorme différence avec l'allocation chômage. C'est-à-dire que l'allocation chômage de la CEDIC, c'est une allocation qui est liée aux cotisations, donc c'est un droit individuel. L'allocation de solidarité, elle est liée, c'est une autre philosophie, c'est une philosophie qui relève, c'est à la fois un minima social qui est une allocation chômage, mais en même temps qui a une connotation plus familialiste, d'une certaine manière, qui renvoie à la conception de l'aide aux pauvres des bonnes années, 18e, et bon, chacun ses pauvres à soi, comme disait Jacques Brel. L'ASS, c'est non pas un droit individuel, ça veut dire que si vous avez un conjoint ou une conjointe qui gagne plus que, moi je parle encore en ancien franc, c'est très mauvais, enfin
c'est très bien.
10 000 francs, vous n'avez pas droit à l'ASS. Même si vous avez la condition d'ancienneté de travail, c'est-à-dire il faut pouvoir dire qu'on a travaillé 5 ans dans les 10 dernières années. Bon, alors on ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais Juppé avait déjà fait une réforme en 97 qui réduisait cette affaire, et donc si vous dépassez le plafond, vous n'avez pas droit à l'ASS. Bon, alors l'ASS en plus, parce qu'il y a un petit problème, c'est que donc il y a plein de gens qui sortent de l'UNEDIC. Bon. Donc ils tombent dans les allocations d'État, on va voir après le RMI, mais donc c'est le budget de l'État. Or, le gouvernement est devant un espèce de dilemme, puisque Chirac, de façon totalement dogmatique, scandaleuse et idiote, s'est engagé à une baisse d'impôts de 30% en 5 ans. Bon. Donc puisque les impôts baissent, il y a évidemment moins de rentrées. Alors, en faisant remarquer quand même que c'est les impôts, en général, ceux qui payent beaucoup d'impôts, c'est ceux qui gagnent du blé, parce que ceux qui n'ont pas de blé, bon, donc en fait, bon voilà, donc il faut que les pauvres se débrouillent entre eux. En gros, c'est ça la philosophie. Donc, puisqu'il faut faire baisser le budget de l'État, puisqu'il y a le pacte de stabilité, dont le président de la Commission européenne, Romano Prodi, a lui aussi que c'était une idiotie, donc vraiment, on fera mieux de faire confiance à l'autre gens pour faire de la politique, parce que ça commence à faire beaucoup. Et donc, le gouvernement a décidé que cet ASS, qui était une allocation versée par 6 mois renouvelables, et on vérifie à chaque fois les conditions de ressources et les conditions de recherche d'emploi, eh bien maintenant, tranquillement, ils ne la verseront plus que pendant 2 ans. Mais c'est un coup près terrible, terrible. Parce que si au bout de 2 ans, vous n'avez pas retrouvé de boulot, ça veut dire qu'il vous arrive quoi? Et en plus, ils ont pris une mesure encore plus cynique, c'est que cet ASS, ceux qui avaient plus de 55 ans, avaient une majoration du taux, parce que c'est une petite allocation, elle fait 480 euros. Hein, donc, je ne sais pas qui peut survivre avec un truc pareil, mais enfin d'ailleurs, mais enfin bon. Donc, il y avait une majoration de 40% pour les gens âgés qui actaient du fait qu'on n'arrive pas à retrouver du boulot quand on est âgé. Eh bien, ils ont décidé qu'ils allaient supprimer cette majoration. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sera à la fois vieux, sans boulot et sans ressources. Bon, alors ça, c'est pour l'ASS. Donc, il y a plein de gens qui vont se voir supprimer l'ASS, puisque pour ceux qui sont en cours aujourd'hui, on va accepter de prolonger jusqu'à 3 ans, mais après, c'est la porte. Bon, alors la porte, pour aller où ? Bah, la porte pour aller, on pourrait dire, au RMI, puisque la création du RMI en 88 disait que c'était le dernier filet de protection. Hein, c'était ça l'invention du RMI. Bon, qui n'est pas quand même la panacée, parce que c'est à peu près le même montant. Là aussi, gros problème, le RMI n'est pas un droit individuel, il est lié aux ressources du foyer. Mais là, les ressources du conjoint sont beaucoup plus basses, puisque si votre conjoint gagne plus que l'équivalent du RMI, c'est-à-dire à peu près 480 euros, là, vous n'avez pas droit au RMI non plus. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans une misère totale pour pouvoir prétendre au RMI. Et autre problème par rapport au RMI, c'est que, contrairement à la SS, vous ne validez pas de trimestre de retraite. C'est-à-dire que quand vous êtes au RMI, quand vous êtes à la SS ou en allocation chômage, vous continuez à valider les trimestres de retraite qui font que les périodes de chômage sont validées, enfin bon, peu importe les calculs, à peu près comme des périodes de travail. Quand vous êtes au RMI, non. C'est-à-dire que c'est pas du tout indifférent d'être à l'ASS ou au RMI. Si des gens se retrouvent 5 ans, 10 ans au RMI, mais pas parce qu'ils trouvent pas de boulot, parce qu'il y a pas de boulot pour tout le monde, parce que bon, etc., ou parce qu'ils peuvent pas, ça veut dire que quand ils vont faire leur calcul pour la retraite, il leur manquera ces annuités. Et donc, ils relèveront du minimum vieillesse. C'est-à-dire qu'ils relèveront des pauvres. Alors, là, même problème pour le gouvernement, c'est que le RMI, c'est une allocation d'État. Donc, je reviens à la case antérieure, problème du budget de l'État. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont imaginé pour échapper à ça? C'est de décentraliser le RMI et de le faire porter donc sur les départements. Alors, deux avantages de leur point de vue par rapport à ça. Le premier, c'est que ça change complètement philosophie, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la proximité en matière de gestion des gens les plus pauvres, c'est le clientélisme. Et que là, très clairement, les présidents de conseils généraux vont avoir des prérogatives extrêmement importantes. J'attire là aussi l'attention des auditeurs, parce que vous allez voter au cantonal pour les conseils généraux. Donc, faites pas n'importe quoi. Parce que, comme dit l'autre, la droite et la gauche, c'est pareil, sauf quand la droite dirige. Et on voit en ce moment ce qu'il en est. Et donc, il le transfère aux conseils généraux, donc un vrai risque de clientélisme. Puis deuxième chose, c'est que c'est pas la même fiscalité, parce que ils vont transférer l'équivalent du montant du RMI de 2003, mais comme il y aura beaucoup plus de gens qui vont y prétendre, puisqu'il y a tous ceux qui vont être virés de la CEDIC et tous ceux qui pourront pas prétendre à la SS, donc évidemment il y aura plus de gens qui demanderont à bénéficier du RMI. Et qui va payer? La fiscalité locale. La fiscalité locale qui ne prend absolument pas en compte les revenus. Et donc, en fait, ces histoires de baisse de l'impôt de Chirac, c'est tout simplement faire payer moins les riches pour faire payer plus les pauvres. Donc, on voit bien là la philosophie des libéraux, qui a absolument rien de social, qui est une philosophie que, après tout, si les pauvres ont envie de se débrouiller entre eux, qu'ils se débrouillent. Et ça peut être extrêmement dangereux. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans les départements, dans les localités, etc. Les gens vont dire, enfin, les gens qui ont des petits salaires, qui sont au SMIC, au temps partiel, etc., ils vont dire, mais moi, j'en ai marre de payer pour ces gens qui foutent rien. Parce que on sait que c'est comme ça que c'est bon. Et donc, qui c'est qui fait son beurre sur une histoire comme ça? Ben, c'est Le Pen. Ou les gens de son genre. On voit très bien qu'on a dans les cités, en gros, la guerre des pauvres contre les pauvres, quoi. Ça peut être les pauvres blancs contre les pauvres immigrés, les pauvres valides contre les pauvres handicapés. Mais enfin, franchement, tout ça, c'est très malsain et ça ressemble beaucoup à des trucs qu'on a connus dans des périodes anciennes où il faut trouver des boucs émissaires et que c'est les plus fragiles qui font les frais. Et ça, c'est catastrophique. Alors, vous rajoutez à ça le RMA. Alors, le RMA, c'est une invention absolument hallucinante, puisque le RMA, ça veut dire revenu minimum d'activité, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps de RMI, on vous proposera un contrat de travail, enfin, à condition que les entreprises veuillent bien, etc. Et alors, il est super, ce contrat de travail, parce que il est payé, c'est pas un contrat à temps plein, donc vous risquez pas d'avoir le SMIC. C'est un taux horaire du SMIC, quelle que soit la qualification. Donc même si vous êtes, parce que dans les RMI, il y a des tas de gens qui sont qualifiés, hein. Vous n'avez qu'à regarder dans les jeunes, les intermittents du spectacle, ils n'arrêtent pas de le dire. Il y en a plein qui sont au RMI et pourtant ils ont une qualification extraordinaire. C'est pas grave, ils seront quand même payés au SMIC. Et puis, il y a deux choses qui sont hallucinantes dans cette histoire. D'abord, c'est un contrat à durée déterminée, évidemment. On ne voit pas pourquoi se priver, qui peut être trois fois à six mois. Donc vous touchez le taux horaire du SMIC. Mais vous ne payez pas de cotisation sociale sur la totalité de ce salaire. C'est-à-dire que l'entreprise, parce que c'est bien connu que quand les entreprises embauchent quelqu'un, c'est pas parce qu'il va produire de la richesse, c'est pour lui rendre service. Tout le monde sait ça, on produit pas de richesse quand on est dans une entreprise. Et donc, on va verser aux entreprises comme subvention pour embaucher des gens dans ce contrat de travail l'équivalent du RMI qu'ils auraient touché. Et les cotisations sociales ne seront versées que sur la petite partie, c'est-à-dire 183 euros par mois que les gens toucheront en plus, ne seront versées que là-dessus. Ce qui fait quoi? C'est contrairement à ce que dit le ministre du Travail qui dit que, ou Raffarin qui nous explique que faut que les gens ils aillent au boulot parce que le boulot c'est super, etc. Et je crois que tous ceux qui n'ont pas de boulot, ils aimeraient bien avoir un boulot. Mais leur truc à eux, c'est de renvoyer les gens au boulot dans leurs conditions à eux. Et du coup, quand vous aurez fini votre RMA, eh ben, vous n'aurez jamais la possibilité d'ouvrir des droits à l'allocation chômage. C'est-à-dire que vous retomberez au RMI. Donc, ce n'est pas du tout un système d'insertion, c'est un système d'enfermement complet. Et donc, je crois que c'est exactement la philosophie du 19e siècle, où les pauvres, c'est une classe dangereuse, il faut les enfermer. Et là, non seulement on va les enfermer, mais on va les enfermer en les obligeant à travailler.
Des souris des hommes, toujours avec Claire Villiers. J'ai une petite question derrière les fagots. Enfin, ce n'est pas vraiment une question. Je me dis, c'est très très bien tout ça, finalement, si on coupe les vivres à tout le monde. Enfin, c'est du moins ce que pensent les libéraux, j'ai un peu l'impression. On coupe les vivres à tout le monde. Enfin, ils vont vouloir bosser, ces feignants.
Alors, il y a un problème, c'est que, on nous raconte tout le temps que les gens, que le travail, ça structure les individus, que c'est indispensable à la vie, etc. Et en même temps, ils ont une peur folle que les gens soient feignants. Moi, ce que je vois tous les jours avec les copains chômeurs et chômeuses, c'est que les gens, ils ont envie de mettre leur capacité au service de tout le monde. Donc, ils ont envie de bosser. Mais ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Ils n'ont pas envie de le faire à n'importe quelle condition. Ils ont envie que ça soit utile. Ils ont envie que ça ait du sens. Ils ont envie d'avoir une place dans la société. Enfin, bref. Alors, ceci dit, de façon le gouvernement, c'est une folie absolue. Il y a 300 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. J'ai dit tout à l'heure lesquelles c'était. C'est celles dont personne ne veut. Et il y a officiellement 2 500 000 chômeurs. En fait, quand on regarde bien les chiffres, c'est plutôt autour de 4 millions. Ils peuvent toujours couper les vivres à tout le monde. Ça ne fera pas surgir les offres d'emploi pour autant. Le patronat vous le dit avec beaucoup de cynisme. De toute façon, vous pouvez nous donner toutes les subventions que vous voulez, faire des exonérations de charges sociales, etc. Ça nous permet de payer les gens moins, mais ça ne fait pas créer des emplois. Une entreprise ne crée pas d'emploi si elle n'a pas besoin par rapport à ses marchés et à sa production. Il faudrait quand même ça qu'on se mette ça un jour dans la tête. D'ailleurs, à mon avis, ça pose un autre problème qui est qu'on devrait réactualiser la conception de qu'est-ce que l'autogestion et la propriété collective. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment insupportable que les boîtes privées décident toutes seules ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, bon, etc. Et par rapport à ça, je crois que en même temps, il y a des vraies contradictions dans la politique du gouvernement et même du patronat. C'est-à-dire que les salaires, c'est du pouvoir d'achat. Si vous ne distribuez plus de pouvoir d'achat, plus personne ne peut rien acheter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de, entre guillemets, baisser le coût du travail, c'est-à-dire payer les gens en fait de moins en moins, à force de baisser les cotisations sociales, donc de baisser les transferts sociaux, mais qui sont aussi du pouvoir d'achat, à force de baisser les allocations chômage, les indemnités, etc., plus personne ne peut rien consommer, et donc vous déprimez l'économie complètement. C'est-à-dire que ces gens-là, contrairement à ce qu'ils nous affirment, sont d'extrêmement mauvais économistes, puisqu'ils refont aujourd'hui à peu près la même connerie qu'avait fait Juppé en son temps, mais bien d'autres. C'est-à-dire qu'ils nous expliquent que s'il y a une crise, c'est parce que c'est une crise de l'offre. Mais non, pas du tout, c'est une crise de la demande. Quand Strauss-Kahn avait revalorisé de façon très importante l'allocation de rentrée scolaire il y a quelques années, il avait expliqué qu'il faisait de la relance. Et oui, bien sûr, il fait de la relance. Je vous assure que quand on a le RMI ou la SS, on n'épargne pas. Contrairement à d'autres qui vont spéculer faire toutes les catastrophes d'éclatement des bulles en tout genre. Non, celui qui est le plus content de l'augmentation des minima sociaux, c'est le patron de Carrefour. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, en plus, évidemment, de bon. Donc là, je crois qu'il y a une vraie contradiction. Il faut qu'il change de politique.
Mais que fait la gauche? Que font les syndicats? Enfin, je sais pas, j'entends pas un vaste tollé. J'ai bien entendu dire qu'il y avait une manif, mais finalement, c'est une manif qui a regroupé bien peu de gens. Enfin, pourquoi ça bouge pas?
Je crois que ça bouge pas. Alors, on pourrait dire d'abord de la part des premiers intéressés, les chômeurs. Moi, j'ai vu des gens, quand ils ont reçu cette fameuse lettre de l'UNEDIC, ils ont dit, mais nous, faut qu'on se mette à chercher du boulot comme des malades, parce qu'on peut pas se retrouver au 1er janvier, expulsé de son logement, etc. Donc, on n'a pas le temps de se mobiliser. Et puis, les gens, ils ont pris ça comme un tel coup sur la gueule que pour se mobiliser, c'est très dur. Puis, pour se mobiliser, il faut pas être trop isolé. Or, quand on est chômeur, souvent, on est super isolé parce qu'on est dans son HLM, dans sa cité, etc., qu'on a du mal. Bon. Et que les organisations de chômeurs, il y en a très peu, elles sont petites, c'est des associations, qu'effectivement, les syndicats, à part la CGT qui essaye, les autres organisations syndicales n'ont jamais rien fait pour organiser les chômeurs. Pire, pour ce qui concerne la CFDT, qui est une organisation à laquelle j'ai été syndiquée longtemps, mais je ne suis plus depuis l'an 2000, justement à cause de ces affaires du PAR, ils ont voté dans un de leurs congrès qu'ils étaient contre l'organisation des chômeurs. Pourquoi? Parce que je pense qu'en partie, ces gens-là, en tout cas les dirigeants, pas les militants de base des organisations syndicales, mais ces gens-là ont une conception que l'oisiveté est la mère de tous les vices, qu'il faut gagner son pain à la sueur de son front, et qu'après tout, les pauvres, ils n'ont pas de droits. et qu'ils doivent se satisfaire de l'assistance qu'on va leur donner. Et nous, ce qu'on dit, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, les pauvres, il n'y a pas d'un côté les inclus et les exclus, tout ça, c'est de la connerie. Il n'y a que des sociologues, je dirais, complètement sociolibéraux pour raconter des bêtises pareilles. Il y a des salariés, avec ou sans emploi, précaires ou pas, et qui ont des intérêts communs. Et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que si on ne se bat pas ensemble, eh ben, on n'y arrivera pas.
C'était donc des sous. J'ai presque du mal à la faire taire, l'invité aujourd'hui. Hein. En tous les cas, si vous voulez retrouver des renseignements sur tout ça, on n'a pas le nom du site exact, mais autrement vous faites sur Google par exemple AC, et vous tomberez sur le site de cette association. Autrement, vous pouvez aussi faire Copernic pour la Fondation Copernic, et là vous trouverez un texte qui s'appelle Pour un Grenelle de l'UNEDIC. Si vous êtes absolument désespéré, bah, c'est tout simple, vous faites www.desoutsetdeshommes.org. À l'intérieur, vous verrez, il y a ma petite adresse perso, vous m'envoyez un email et puis on se débrouillera entre nous. À bientôt.